Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains. Nous aurons deux textes pour la lecture, Romains au chapitre 6 et ensuite un texte dans 1 Corinthiens 15. Romains au chapitre 6 et puis après 1 Corinthiens 15 et nous entendons maintenant les lectures.
Alors, comme l'a dit Timothée, Romains 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et une seconde lecture dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
Sans l'alphabet, il serait impossible d'écrire quoi que ce soit. Et nous serions ce matin devant des pages blanches en ouvrant notre Bible, s'il n'y avait pas d'alphabet. Eh bien, c'est exactement la même chose pour notre compréhension de la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est comme s'il n'y avait pas d'alphabet, page blanche. Eh bien, nous comptons sur son œuvre ce matin pour comprendre ce qu'il veut nous dire au travers de sa parole. Et en général, c'est vrai que les derniers dimanches du mois, actuellement, nous suivons une série de prédications intitulée « L'Évangile change tout ». Et l'Évangile change tout, qui est fondée sur parole de Dieu, on a lu quelques textes, on fera des liens tout à l'heure, et les sujets que nous abordons s'inspirent du livre de Jackel Crow qui dit « Ça change tout l'évangile qui transforme ta jeunesse ». Alors on a déjà vu trois sujets ensemble. Le premier c'était que l'évangile change ton identité. L'évangile change ton identité, et il y a un petit résumé, si jamais, sur les feuilles que vous pouvez prendre à l'entrée, qui résume ce que nous avons vu. Deuxièmement, l'évangile change ton histoire. Notre histoire est changée. Et troisièmement, l'évangile change ton appartenance communautaire. Nous avons vu ça le mois passé. Et je vous donne juste le résumé cette fois-ci, qui est sur vos petites feuilles de cette partie-là, qui dit ceci. Si l'évangile est entré dans ta vie, tu es entré dans une communauté. Si l'évangile est entré dans ta vie, tu es entré dans une communauté. le manifestant publiquement par le baptême en confessant ta foi en Jésus-Christ. Tu es maintenant non pas spectateur de l'Église, mais un membre relié aux autres par le sang de Christ, avec tous les autres membres avec qui tu entres dans une redevabilité réciproque et bienfaisante pour un bon fonctionnement solidaire de tout le corps qui se manifeste visiblement par l'Église locale. Ah, c'était une longue phrase, une phrase à l'apôtre Paul. Vous pouvez la relire et la méditer. Hein. C'est des éléments qu'on a vus ensemble. Cet enseignement de l'Évangile change notre appartenance communautaire. Et avant d'entrer dans le sujet du jour, de qu'est-ce que l'Évangile change aujourd'hui, il serait peut-être bon de se poser la question, mais qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile? Micro-trottoir, qu'est-ce que l'Évangile? Je peux venir vers chacun, là, je ne vais pas le faire maintenant, mais vous pourriez réfléchir, qu'est-ce que l'Évangile? Alors souvenons-nous que l'Évangile, c'est une nouvelle qui se place dans un contexte. C'est une nouvelle qui se place dans un contexte. C'est une nouvelle qui concerne des personnes. C'est une nouvelle d'une grande œuvre. Et c'est une nouvelle qui nous place devant un choix. Ça, c'est l'explication globale de l'Évangile, sans encore parler du contenu. Mais c'est vraiment un élément important. L'Évangile, ça se place dans un contexte. Cela concerne des personnes. C'est une nouvelle d'une grande œuvre et c'est une nouvelle qui nous place devant un choix. Or le contexte, eh bien, le contexte de l'Évangile, c'est qu'il existe un Créateur parfait et saint à qui nous devons rendre des comptes. Ça, c'est le contexte. Et vous allez me dire, mais presque tout le monde ne croit pas à la création et au Dieu de la Bible. Oui, malheureusement, mais ne pas croire en quelque chose ne produit pas son inexistence. Par exemple, que vous le croyez ou non, M. Burkhalter était président de la Suisse en 2014. Le fait que vous le croyez ou non, ça ne va pas changer la chose. Le fait que le monde croit ou non que Dieu existe et qu'il a créé le monde ne change pas le fait que c'est vrai. Deuxième élément, donc les personnes concernées par l'Évangile, eh bien c'est l'humanité entière. Donc toi et moi, l'humanité entière est concernée par l'Évangile et nous avons tous un problème, c'est que nous sommes en rébellion contre Dieu par nature. Nous sommes en rébellion contre Dieu par nature. Alors vous allez me dire, ouais, mais tout le monde n'est pas en train de manifester dehors, dans la rue, en fustigeant Dieu. C'est vrai, mais ça ne signifie pas que l'indifférence est une moins grande rébellion. La rébellion amène à jugement et à la condamnation. Le contexte de l'Évangile, c'est qu'il y a un Dieu créateur. Les personnes concernées à l'Évangile, c'est toute l'humanité plongée dans la rébellion contre Dieu. Et troisièmement, la grande œuvre de l'Évangile, c'est le plan du salut de Dieu pour sauver les hommes de la condamnation. Et le point culminant de l'accomplissement de ce plan, c'est la mort sacrificielle de Jésus-Christ et sa résurrection. C'est ça, c'est le cœur de l'Évangile, si vous voulez, c'est cette œuvre extraordinaire de Jésus-Christ. Et dernière chose que je vous ai dit, l'Évangile nous place devant un choix. Soit il est accepté par la repentance et la foi, soit il est refusé de toute autre manière. Et la conséquence de ce choix est éternelle. Voilà, donc l'Évangile peut être présenté de différentes manières, évidemment. Hein, mais ces quatre choses que nous trouvons particulièrement dans Romains 1 à 4, vous pouvez relire les chapitres 1 à 4 de Romains, eh bien, vous retrouvez ces quatre éléments que je viens de vous mentionner. Hein, le contexte qui nous parle de Dieu, les personnes concernées qui sont tous les hommes, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, hein, et sont sous la colère de Dieu. Le salut, l'œuvre de salut de Jésus-Christ qui prend la colère sur lui, de ceux qui croient, et le choix devant lequel l'Évangile place chacun. Eh bien, c'est de cet Évangile-là que nous parlons lorsque nous disons que l'Évangile change tout. Et aujourd'hui, nous allons voir que l'Évangile change ta façon de faire face au péché. L'Évangile change ta façon de faire face au péché. C'est le titre et le menu du jour. Eh bien, c'est quatre verbes. On pourrait dire quatre verbes. Hein? C'est l'Évangile révèle. C'est le premier verbe. Révèle le péché. L'Évangile révèle le péché. Deuxièmement, l'Évangile sauve de la condamnation du péché. L'Évangile sauve. La condamnation du péché. Troisièmement, l'Évangile engage au combat contre le péché. L'Évangile engage au combat contre le péché. Et quatrièmement, je dois vous avouer que c'est mon préféré, l'évangile annonce la fin du péché. L'évangile annonce la fin du péché, c'est le quatrième point. Donc premièrement, l'évangile change notre façon de faire face au péché parce qu'il révèle le péché. Sans le péché, nous n'aurions pas besoin de l'évangile. 1 Jean 3, 5 nous dit « Or vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés et il n'y a pas de péché en lui. » En fait, le simple fait que Jésus est venu pour ôter les péchés indique que le péché existe et que c'est très sérieux. Hein, le simple fait que Jésus vient pour ôter, il est venu pour ôter le péché, indique que le péché existe. Donc si des gens vous disent que ça n'existe pas, ben faut nier tout ce qu'on dit de Jésus-Christ. Hein. Le simple fait qu'il est venu, c'est que ça existe et que c'est très sérieux. Et c'est tellement sérieux que Dieu lui-même intervient, ayant planifié toute l'histoire de la rédemption qu'il a mené à bien de 7 à Jésus-Christ et qui continue et jaillit sur nous aujourd'hui. En fait, le péché, c'est pas non plus quelque chose de vague et d'indéfini, comme bien des gens le pensent. Hein, vous allez dans, c'est quoi le péché? C'est ce qui est pas bien. Bon, d'accord. C'est quoi qui est pas bien? Hein? Eh bien, Jésus, vous savez, n'est pas venu pour mourir pour les choses que l'on considérait comme mauvaises, selon nos critères. Non, le péché est clairement défini dans la révélation de Dieu. Il est venu mourir pour des péchés définis par Dieu. Et vous vous souvenez peut-être du 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est 1, 2, 3, 4. C'est la définition du péché, vous vous souvenez? Puis au lieu du 2, vous mettez Jean. 1, Jean, 3, 4. Vous avez la définition du péché. Hein? 1 Jean 3, 4, peut-être vous vous souvenez. Hein? Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Le péché, c'est la violation de la loi. Le péché, c'est la violation de la loi de Dieu et non pas la violation de ma loi ou de la tienne. Le péché, c'est la violation de la loi de Dieu, pas de ma loi ou de la tienne. En fait, on pourrait dire c'est rater la cible de Dieu. Certains disent que le péché, c'est rater la cible. J'aime bien cette image, mais il faut savoir de quelle cible il s'agit. Hein? Donc c'est rater la cible de Dieu. Et c'est en observant la loi de Dieu, donc cette cible, que nous pouvons reconnaître le péché. Tout ce qui est à côté, c'est péché. Alors voici une petite illustration. Je prendrai à quelqu'un qui s'appelle Pascal. Pascal aimerait bien aller au lac par cette chaleur. Ah tiens, peut-être d'autres ici aimeraient aussi. Et voilà que sa maman lui demande de nettoyer la salle de bain et de s'occuper de son petit frère pendant qu'elle va faire les courses. Pascal est très frustré, évidemment. Et il ne manque pas de le dire à sa maman. Et en plus, il lui dit qu'elle le prive de toujours de ce qui est bon. Pascal a-t-il péché? C'est pas le sentiment de la maman qui va définir si Pascal a péché. Mais la loi de Dieu. Et dans la loi de Dieu, il est dit « Honore ton père et ta mère et ne porte pas de faux témoignages. » Tu ne porteras pas de faux témoignages. Eh bien, Pascal a déshonoré sa maman en lui parlant avec irrespect et il a menti en utilisant un absolu parce que sa maman l'avait laissé aller au lac hier. Il va donc se repentir des péchés définis par Dieu. Le péché est défini par Dieu et non par l'homme. Et malheureusement, nous cherchons à définir nous-mêmes ce qu'est le péché. Et quand on fait ça, généralement, nos propres péchés deviennent des petites faiblesses. Disons, on dit que c'est pas si grave. Et on les tolère. D'ailleurs, plusieurs connaissent ici un livre que Jerry Bridges a écrit, qui dit ceci, un pas si grave, ces attitudes que nous tolérons. Intéressant, et il constatait déjà en 2007 que la notion de péché avait disparu de la société et que l'Église en était affectée. En 2007, ça fait déjà quelques années. Pourtant, le péché, c'est comme un cancer déclaré, une tumeur maligne qui conduit inéluctablement à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi avons-nous donc généralement plus peur du cancer que du péché? Parce que nous ne nous rendons pas compte des conséquences du péché. Et Jackel dit dans son livre, et je suis d'accord avec elle, je vous le cite, « Ces péchés ordinaires, entre guillemets, hein, que nous nous attendons à trouver dans nos vies, sont de réels obstacles qui menacent les chrétiens. Ils se glissent dans nos angles morts, s'installent dans les petites failles de notre vie pour s'épanouir dans l'ombre, et ils auront forcément un effet toxique sur nous si nous ne les combattons pas. » Et John Owen, que j'aime bien citer dans ce cas-là, nous dit « Tuez le péché ou c'est lui qui vous tuera ». C'est assez fort quand même. Alors par la grâce de Dieu, c'est pas nous qui avons réussi à le tuer, c'est Jésus-Christ. Mais il nous demande d'entrer dans sa victoire pour justement ne pas être tué par ce péché. L'évangile dévoile le péché. Il nous permet de comprendre d'ailleurs aussi que, par exemple, vivre une journée sans penser à Dieu, sans chercher sa volonté, sa gloire, et sans chercher à dépendre de lui, c'est de l'impiété. Et l'impiété est un péché. Alors j'ai une bonne nouvelle, hein. Christ est mort pour les péchés. Quand on dit que c'est un péché, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est que Christ est mort pour les péchés et il nous en délivre. Vous allez peut-être me dire que vous n'avez tué personne, que vous n'avez pas braqué de banque et que vous ne faites pas de commerce humain. Bah tant mieux, tant mieux. Et ne le faites jamais. Mais avez-vous jamais eu de l'inquiétude qui manifeste un manque de confiance en Dieu? De la frustration qui indique que nous n'acceptons pas ce que Dieu nous donne? Du mécontentement qui indique que l'on convoite autre chose? De l'ingratitude, enfin, et tant d'autres péchés que l'on excuse si souvent. Le péché est un mauvais cancer duquel nous sommes tous infectés. Il est si affreux, si horrible, si pervers, on pourrait dire, si pernicieux. Y a-t-il un espoir? Eh bien, c'est là que l'évangile, exceptionnellement bonne nouvelle, nous aide à voir cette bonne nouvelle, justement, dans notre deuxième point. L'évangile sauve de la condamnation du péché. Et là, écoutez bien. Bon, j'ai fait une pause, je ne sais pas que vous vous endormiez à cause du chaud. C'est pas facile aujourd'hui, c'est vrai. Écoutez bien. Jésus a obtenu la victoire complète sur le péché. Ça vous fait rien? Non, mais bon, alors, pas faire des grandes manifestations. J'espère que c'est quelque chose qui, dans votre cœur, vous touche. Une victoire complète sur le péché. La Bible dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Ce que Dieu avait dit à Adam, avec « Il ne pêche que si tu ne m'obéis pas, tu mourras ». Jésus est mort pour les pécheurs, c'est vrai, et Jésus est mort pour tuer le péché. C'est pas mal, hein? Pour tuer le péché. Il a enlevé le pouvoir du péché en mourant et il l'a prouvé en ressuscitant. Jésus est mort sur la croix pour tuer le péché. J'utilise ce terme à dessein, on va en parler. Et il a enlevé le pouvoir du péché en mourant, il l'a prouvé en ressuscitant. Jésus est venu payer cette dette du péché. Il l'a payé. Il a pris sur lui la colère de Dieu. Il a enduré la punition que nous méritions pour notre péché. Alors là, il faut déjà être conscient qu'on le méritait. Hein, souvent on dit, on ne mérite pas. Nous méritons la colère de Dieu. Mais Christ la prend sur lui pour tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ. Et pour tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ, Romains 8, 1, souvent, devient un des passages préférés. Enfin, en tout cas, moi, c'en est un de mes préférés. Comment c'est, Romains 8, 1? Apprenez-le par cœur. Il est très court. Hein? Il est vraiment très court. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Maintenant. Chaque fois que vous pouvez dire ce terme maintenant, vous pouvez le dire à tout moment, maintenant. Eh bien, c'est que cette vérité est vraie. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et cela signifie que je n'ai pas non plus à me condamner. Je n'ai pas besoin de me condamner. Oui, c'est vrai, quand je pêche, j'ai à me repentir. On va en parler. Mais comprenons bien que Jésus a pris la condamnation. Il l'a subi. Et Dieu est juste, il ne fait pas payer deux fois la même faute. Celui qui reçoit l'évangile, qui voit la valeur de ce que Dieu a fait, qui donne plus de valeur à Dieu même que sa propre vie, celui-là ne sera pas condamné au jour du jugement. L'évangile permet de faire face au péché sans avoir peur d'être condamné. Car Jésus a pris cette condamnation, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc si vous péchez, vous êtes en Christ, vous péchez, il faut aller vers lui, il n'y a aucune condamnation. Mais il faut aller vers lui pour se repentir. Cela signifie-t-il que nous nous désintéressons au sujet du péché? Peu importe si nous péchons, hein, puisque nous ne sommes pas condamnés. Eh bien, mes chers frères et sœurs qui sommes sauvés et morts au péché, Paul l'explique dans Romains 6, que nous avons lu tout à l'heure, et particulièrement au verset 6, qui dit « Nous savons que notre vieille nature était crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre Père Céleste déteste le péché au plus haut point. Et je pourrais dire que le degré de notre haine pour le péché indique le degré de notre amour pour Dieu. Le degré de notre haine pour le péché indique le degré d'amour pour Dieu, puisque lui en a une haine complète. L'évangile dévoile le péché, l'évangile sauve de la condamnation du péché, et nous avons également à le combattre. Voilà, reprenons, donc nous étions dans cette notion que l'évangile révèle le péché, l'évangile sauve de la condamnation, et nous entrons maintenant dans cette troisième partie de l'évangile qui nous engage au combat contre le péché. Donc chercher à se débarrasser de tout péché, est-ce que vous cherchez à vous débarrasser de tout péché ? Bien, chercher à se débarrasser de tout péché et se remplir uniquement des vertus de Dieu, d'une bonne eau, si vous voulez, pour faire l'illustration, eh bien, c'est en fait chercher et grandir dans la sainteté. C'est ça, en fait, de grandir dans la sainteté. C'est se débarrasser de tout péché et se remplir de ce qui est bon selon Dieu, des vertus chrétiennes. C'est en fait chercher et grandir dans la sainteté. Et c'est vrai que Dieu nous rend saints en Christ, hein, il y a une sainteté objective, mais il nous fait avancer dans cette sainteté dans notre vie. Ça va se manifester, c'est la sainteté subjective, on grandit, on progresse petit à petit. C'est un processus, c'est notre cheminement pour devenir toujours plus semblable à Jésus-Christ. Et rappelons-nous, ça c'est une phrase que je dis souvent et je la redis parce qu'elle est importante, nous débordons uniquement de ce que nous nous remplissons. Nous débordons uniquement de ce que nous nous remplissons. Et j'aimerais vous parler de 5 moyens de combattre le péché. 5 moyens. Le premier moyen, eh bien, c'est nourris-toi de la parole. Peut-être que certains se rappellent du psaume 119.11. On avait appris par cœur une fois à l'église ce psaume 119.11 qui nous dit « je serre ta promesse sur mon cœur afin de ne pas péché. Impossible de reconnaître le péché sans connaître la parole de Dieu, puisque c'est lui qui définit qu'est-ce qui est péché. Donc impossible de connaître le péché si on ne connaît pas la parole de Dieu. Impossible de se défendre contre le péché sans la parole de Dieu, parce qu'elle est notre épée pour les combats. Hier, les jeunes ont vu qu'il y avait une épée, hein, pour le combat, qui est la parole de Dieu. Bon, elle est en plastique, celle-là. Mais... Et on voit que Jésus-Christ lui-même nous montre un exemple lorsqu'il est face à Satan, hein, dans les tentations. Qu'est-ce qu'il répond à Satan ? Il est écrit. Alors si lui, qui est le Fils de Dieu, parfait, utilise la parole, bah, d'autant plus nous, qui avons besoin d'être éclairés, devons-nous utiliser la parole aussi face à la tentation. Donc il faut la connaître. Pour combattre le péché, il faut te nourrir de la parole, comme un militaire bien avisé fait une grande réserve de munitions. Faut pas attendre que la tentation arrive pour dire « Oh, faut que j'aille voir dans la Bible, comment répondre à cette tentation ?» Ça marche pas bien. C'est comme le militaire qui se fait attaquer puis il a pas de munitions, quoi. « Ouh là là, quelle munition j'en ai acheté ?» Mais attends, l'attaque, elle est là, mon ami. C'est avant qu'il faut se préparer. Donc, nourris-toi de la parole, une façon de combattre le péché. Deuxièmement, hais le péché. Alors de la haine, parce qu'il est difficile de se détacher de quelque chose qu'on aime. C'est très difficile de se détacher de quelque chose qu'on aime. Donc, on peut faire nôtre cette prière que Calvin, d'ailleurs, faisait souvent. Il disait « Seigneur, aide-nous à haïr suffisamment nos péchés pour que nous nous en détournions. » Aide-nous à haïr suffisamment nos péchés pour que nous en détournions. Et si nous sommes appelés à apprendre à aimer, la Bible nous dit que nous sommes appelés à apprendre à aimer, nous aimer les uns les autres, aimer Dieu. Eh bien, nous sommes aussi appelés à apprendre à haïr. Pas les uns les autres, à haïr le mal. C'est de Romains 12, 9 qui nous le dit très clairement. Ayez le mal en horreur. C'est très fort le terme, hein. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Quand on a quelque chose en horreur, ben quelque part déjà ça nous fait peur. Puis deuxièmement, quand on le voit, ça nous fait pas du tout envie d'y aller, enfin, etc. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Nous ne cherchons pas ce que nous détestons. On cherche pas ce qu'on déteste. Nous fuyons ce qui nous fait horreur. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas manger, ben vous n'allez pas demander qu'on vous le donne. Évidemment. Vous le fuyez. Combattre le péché, c'est le voir tel qu'il est. Horrible, abominable, ignoble, atroce, répugnant, hideux. Enfin, vous pouvez continuer. Horrible. Le péché amène la douleur, les relations brisées, une conscience pesante, des dégâts, des soupçons, du dégoût. continuez aussi. C'est horrible le péché. Haïssons-le, fuyons-le. Deuxième façon de combattre le péché, apprendre à haïr le péché. Troisième façon, c'est repens-toi de tes péchés chaque fois. Kevin DeYoung, dans son livre que je vous recommande, qui s'intitule « La faille dans notre sainteté, combler le vide entre la passion pour l'évangile et la poursuite de la sainteté », souligne que la repentance est un mode de vie pour les enfants de Dieu. Un mode de vie, une façon de vivre, une habitude de vivre, la repentance. Si quelqu'un dit « moi je suis chrétien » puis qu'il se repent jamais, ce n'est pas un chrétien. C'est comme si on disait « ça c'est une locomotive mais elle n'est jamais sur des rails, jamais roulée ». C'est pas une locomotive. Enfin bon là c'est encore un peu différent parce qu'on pourrait la voir comme une locomotive, mais elle n'est pas utile. C'est pas pour rien que dans l'enseignement de la prière, Jésus d'ailleurs dit à ses disciples une chose très importante, il lui inclut « pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ». L'évangile nous pousse à ce que j'appelle la repentance rapide. Alors la repentance rapide, c'est pas une repentance bâclée, faut pas mal me comprendre. La repentance rapide, c'est le délai le plus court possible entre le péché et la repentance. C'est là qu'est la rapidité. N'attendons pas pour nous repentir. Vous vous rendez compte, vous avez péché, vous n'êtes pas en train de dire, attends, faut que je réfléchisse encore 2-3 jours, là, si c'est vraiment un péché. Si vous faites ça, je vous assure que dans 2-3 jours, ben, vous ne penserez plus vraiment que c'est un péché. De toute façon, tout le monde le fait, puis en plus, les autres le font bien pire que vous, évidemment. Bon. Non, faut pas attendre. Faut avoir peur de l'humilité. Plus nous attendons, plus ça devient difficile, généralement. Et l'évangile nous pousse aussi à une repentance qui libère. 1 Jean 1,9 nous donne une assurance. Vous connaissez 1 Jean 1,9. C'est de nouveau un texte, hein, les munitions là qu'on a avec nous. 1 Jean 1,9, c'est une munition. Vous avez avec vous. Hein, vous le connaissez. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. C'est une munition. Et c'est l'occasion, maintenant je reprends cette occasion quand même pour vous rappeler les 7 A de la repentance qui libère. Vous vous souvenez des 7 A? J'ai donné un enseignement hein, sur la repentance, puis ben on donne une fois, puis on doit tout savoir. Moi, non, on doit répéter, sinon on oublie. Même moi, je dois me répéter. Pour moi-même, évidemment. Alors, les 7, je vous les donne, les 7, sans trop les développer. Mais ces 7 éléments font partie d'une repentance qui libère. Le premier A, c'est tout des A, évidemment. Donc, aller vers chaque personne impliquée. Aller vers chaque personne impliquée. Si le péché a touché plusieurs personnes, la repentance doit aussi les toucher. Deuxièmement, abandonner les « si, mais ou peut-être ». Lorsqu'un de ces petits mots « si, mais ou peut-être » fait partie de votre confession, de votre repentance, ce n'en est pas une. Ce n'en est pas une. Vous pouvez tester. Donc, abandonner les « si, mais ou peut-être ». Troisièmement, avouer spécifiquement vos fautes. On ne se repent pas pour des choses qui sont irréelles ou qui sont mystiques. On se repent pour des choses réelles. On reprend Pascal là avec sa maman, ben il peut se repentir en demandant à sa maman « je te demande pardon que je t'ai parlé d'une manière déshonorante. Je demande pardon d'avoir menti. » Mais je peux dire que pour moi, c'est pas facile de garder mon petit frère alors que j'aimerais aller au lac, c'est vrai, on ose le dire. Ensuite, aller vers chaque personne, abandonner si mais peut-être, avouer spécifiquement les fautes, admettre la blessure infligée. Quand on pêche, ça fait mal. Même nous, on l'a pas senti. Ça, c'est une des choses parfois qui est le plus difficile, je pense. C'est que quand on pêche contre quelqu'un, la personne a mal, mais pas nous. Puis quelque part, on se dit, bah attends, si on m'avait fait ça à moi, j'aurais pas eu mal. Je dis, ah, mais on vous l'a pas fait. C'est vous qui l'avez fait à l'autre actuellement. Donc, admettre la blessure infligée. Ça nous aidera aussi à moins le faire par la suite. Ensuite, 5e élément, accepter les conséquences. Accepter les conséquences. Celui qui se repent et qui ne cherche pas à corriger ou à réparer ce qu'il a fait, ne se repent pas. Si j'ai volé 20 francs à quelqu'un, puis que je lui dis, écoute, je te demande pardon d'avoir volé ces 20 francs, puis je pars, puis tiens bonne, puis que j'ai les 20 francs en plus, puis même si je les avais pas, je chercherais à travailler pour les avoir. Si je faisais ça, c'est pas de la repentance, je suis désolé, ça vous libère pas, ça. Alors il y a des choses qu'on peut pas rembourser, c'est vrai. Et pour ces choses-là, ben, il y a justement la grâce de Dieu, et ça, on en est reconnaissant, c'est vrai. Mais on va pas chercher cette grâce pour toute chose et dire voilà, Dieu a grâce, j'ai rien à redonner. Non, ce que je peux réparer, je le fais. C'est une vraie repentance, et ça devrait pas être celui qui accorde le pardon qui devrait le demander. C'est celui qui se repent qui doit le donner. Hein. Donc, acceptez les conséquences. Sixièmement, améliorez votre comportement. Le but, c'est pas de continuellement refaire les mêmes péchés, même si malheureusement, ça arrive encore trop souvent dans nos vies. Mais comment est-ce qu'on peut mettre des moyens? Peut-être même l'autre peut nous aider à ne plus pécher. Et septièmement, c'est ce que la plupart du temps on fait en premier, quand on se repent, c'est appeler au pardon. C'est demander pardon. Souvent, on fait ça en premier. Mais c'est pas la première chose à faire. Mais c'est une chose à faire quand même, évidemment. Et c'est une demande de pardon. C'est pas une exigence de pardon. C'est pas maintenant je me suis repenti, tu dois me pardonner. Excusez-moi, c'est vous qui avez fait la faute. Je dirais, on demande. Est-ce que l'autre veut bien pardonner? Et puis, on le demande humblement, avec respect, en désirant qu'il puisse le donner, évidemment. Parce qu'après, s'il peut pas le donner, ça c'est une autre histoire de la prison du non-pardon. Mais c'est autre chose. Donc par rapport à la repentance, les 7 A de la repentance, je vous encourage à les reméditer, à les vivre. Parfois, on les vit un petit peu checklist au début, puis après, ça devient un petit peu habituel dans notre façon de vivre. Donc, allez vers toutes les personnes impliquées, abandonnez les 6 mais peut-être, avouez spécifiquement vos fautes, admettre la blessure infligée, accepter les conséquences, améliorer le comportement et appeler au pardon. Donc, impossible de combattre le péché sans une réelle repentance. C'est impossible. Et attendre qu'un péché disparaisse, donc avec le temps, ne fonctionne qu'avec apparence. Mais ne règle rien du tout. Parce qu'il va ressurgir. Et souvent, on sait même plus d'où il vient quand on n'a pas réglé un péché. On sait même plus. Donc quand il y a un péché qui nous met, quand Dieu nous permet de voir un péché dans notre vie, réglez-le, s'il vous plaît. Réglons-le. Je parle pour moi aussi, évidemment. Donc voilà pourquoi la repentance rapide et la repentance qui libère avec les 7 A sont des moyens efficaces de combattre contre le péché. Un quatrième élément, un peu plus court, donc un autre moyen, c'est encore la redevabilité. C'est pas à la mode, hein, actuellement, la redevabilité. Ce qui est à la mode actuellement, c'est chacun ses affaires. Et personne ne va mettre son nez dans les miennes. Ça, c'est la mode actuelle et qui est en lien avec la chute, à mon avis. Mais mes chers amis, nous sommes tous créés redevables envers le Créateur. Tous, il n'y a pas d'exception. Tous. Donc lui peut mettre son nez dans nos affaires. Hein? Et on doit même quelque part se réjouir qu'il le fasse et ouvrir tout pour qu'il puisse le faire. Mais alors pourquoi pas entrer dans un chemin de redevabilité choisi avec quelqu'un d'autre pour nous exercer à la redevabilité envers Dieu? La redevabilité permet de combattre le péché dans sa vie à l'aide d'autres personnes qui nous veulent du bien. Ça aide de combattre sans être seul, être redevable. Et là, Jackel nous donne une illustration personnelle que je trouve intéressante, que je vais vous donner et que j'encourage à vivre d'une manière ou d'une autre. Après, les manières, elles sont différentes pour chacun. Voici ce qu'elle nous dit, je trouve intéressant. Avec ma mère, nous nous retrouvons toutes les deux, une fois par semaine. Parfois, nous lisons un livre ensemble qui fait l'objet de notre discussion pendant notre rendez-vous hebdomadaire, mais pas toujours. Ce sont surtout des occasions pour moi de lui rendre compte de mon cheminement et de mes difficultés. Nous parlons de la vie en général, de mes combats du moment et de ce qui m'encourage. Elle me demande systématiquement comment se passe ma vie de prière et ma relation avec Dieu, et souvent elle me pose des questions courtes et directes pour me pousser à exprimer comment je me sens réellement. Par exemple, elle me demande « Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment ?» ou « Qu'est-ce qui te rend triste ?» ou « Qu'est-ce qui te rend en colère ?» Elle me demande régulièrement s'il y a des péchés contre lesquels je me bats, et il y a des semaines où elle m'offre ses conseils quant à des péchés qu'elle a elle-même repérés chez moi. Alors c'est vrai que ce genre de relation implique d'avoir en face de soi quelqu'un qui nous aime suffisamment pour nous aider à combattre le péché. Ça c'est vrai. Mais rappelons-nous une chose, et ça je trouve que c'est beau quand on parle de redevabilité, c'est que Jésus-Christ lui-même devient redevable envers nous dès que nous nous convertissons. Il est le garant de notre salut. C'est extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle il ne va pas nous laisser aller errer dans des zones qui s'éloignent de lui. Il va nous reprendre. J'aimerais quand même te poser une question. À qui es-tu redevable pour exercer ta redevabilité envers Dieu? Après ce quatrième moyen pour combattre le péché, un dernier moyen, Sois humble, l'humilité. L'humilité. Vous savez, il n'existe pas de raccourci pour grandir dans la sainteté. Il n'y a pas de produit dopant pour une sainteté en 3 minutes. Enfin, si quelqu'un vous le propose, c'est faux. La Bible ne nous enseigne pas ça. C'est un processus. Cela prend du temps. Et combattre le péché, c'est être conscient, lorsque nous voyons l'autre tomber, que nous pourrions aussi tomber. C'est l'humilité qui combat le péché, ça. S'il n'y en a pas d'humilité, on se dit, attends, mais l'autre, franchement, jamais moi j'aurais fait ça. Jamais. Eh bien, ça, c'est pas combattre le péché. Combattre le péché, c'est être conscient que nous avons tant de péchés à nous faire pardonner. Écoutez bien, on a tant de péchés à nous faire pardonner que personne sur la terre ne pourra pécher contre nous autant que nous avons à être pardonnés. On a tant péché contre Dieu que personne sur la terre ne pourra pécher plus contre nous que ce que nous avons péché contre Dieu. Et la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18 devrait nous aider à le saisir et à rester humble face au péché. Mais si l'évangile dévoile le péché, sauve de la condamnation du péché et engage au combat contre le péché, l'évangile annonce aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, la fin du péché. Magnifique ça, la fin du péché. L'évangile annonce la fin du péché. On a entendu le texte de 1 Corinthiens 15, j'aimerais le relire, versets 54 à 58. « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui était écrite, « La mort a été engloutie dans ta victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. » Mais il n'y a plus de péché, il n'y a plus d'aiguillon, il n'y a plus de mort. Waouh ! Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. La vie éternelle que Dieu donne est une vie libérée de tout péché. Donc Eva nous parlait de la vie éternelle tout à l'heure, qu'on reçoit aussi. Alors la vie éternelle, c'est une vie libérée du péché. Quand on dit « Dieu nous donne la vie éternelle », certains disent « Oh, mais j'ai pas envie de vivre éternellement ». Mais excusez-moi, mais c'est une vie libérée de péché, sans péché. Un peu de la peine à imaginer, mais quand on essaye un petit peu, c'est juste extraordinaire. Des relations totalement bonnes, sans aucun problème. Il n'y a pas de vol. Il n'y a personne qui se moque, qui nous chicane, qui se moque de nous. Il n'y a plus de douleur. Aucune mort, aucun commérage. Enfin, c'est merveilleux. La classe. Enfin, encore mieux. Libéré du péché. Et là, l'évangile nous annonce la fin du péché. Et ce sera réellement ce que certains appellent le paradis. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans la présence bienfaisante et glorieuse de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons pris le temps de réfléchir quelques instants à cette conséquence du changement apporté par l'Évangile. Nous ne faisons plus face au péché de la même manière. On a vu quelques éléments aujourd'hui. Vous vous souvenez, 4 verbes, l'Évangile révèle le péché. C'est Dieu qui définit le péché. Et c'est pour le péché que Christ, c'est pour ce péché que Christ est venu mourir. Deuxièmement, l'Évangile sauve de la condamnation du péché. L'as-tu saisi ? Troisièmement, l'Évangile engage à combattre contre le péché. Impossible de bénéficier de l'Évangile sans combattre contre le péché. C'est de l'hypocrisie. Moi, je suis sauvé par la grâce, mais je m'en fous du péché. C'est de l'hypocrisie, c'est pas possible. Et comment est-ce qu'on le vit ? Eh bien, en se nourrissant de la parole, en haïssant le péché, en se repentant, en étant redevable, et en étant humble. Et quatrièmement, l'Évangile annonce la fin du péché. Un jour, le péché n'existera plus pour celui qui croit en Jésus-Christ. C'est la réalité. Et je m'en réjouis du fond du cœur. L'Évangile de Jésus-Christ a-t-il changé ta vie ? A-t-il changé ta manière de faire face au péché ? Nous allons prier. Éternel, parler du péché est quelque chose de difficile. Parce que premièrement, c'est quelque chose d'horrible. Et deuxièmement, c'est quelque chose dont on ne veut pas parler. Et c'est quelque chose que l'on veut ignorer. Mais j'aimerais te dire merci parce que tu nous permets, par l'Évangile, de ne plus nous voiler la face, mais de ne plus non plus être dans une situation dramatique où nous nous sentons démunis, perdus. Non, Seigneur, nous savons que le péché est horrible. Et nous en sommes tellement encore désolés dans nos vies. Mais nous savons aussi que Jésus-Christ est plus grand que tous les péchés. Que son œuvre à la croix est plus puissante que n'importe quel péché. Et que nous pouvons nous confier en lui. Et Seigneur, nous avons cette promesse qu'un jour, nous serons totalement libérés de ce péché. Seigneur, nous te louons et t'adorons. Tu es digne de notre adoration. Et nous te prions que dans nos vies, chaque jour, nous combattions ce péché. Non pas premièrement en regardant ce péché, mais premièrement en te regardant toi, notre Seigneur de gloire, qui nous guide vers le bien, qui nous guide vers la sainteté. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.